Et là, c'est Marie tout court que j'accueille. Bonsoir Marie.
Bonsoir.
Bienvenue à vous.
Merci beaucoup d'accueillir. Je suis un peu impressionnée. Je suis pas habituée à intervenir. J'appelle en fait pour parler d'une rupture que j'ai vécue il y a presque 3 semaines. Ça fera 3 semaines demain.
Oui.
Et qui est très difficile pour moi.
Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Quel âge avez-vous, Marie?
J'ai 52 ans.
Et ça faisait combien de temps que vous étiez avec lui?
Ça faisait presque un an.
D'accord. C'est quelqu'un que vous aviez rencontré comment?
Sur un site, en fait, sur un site de rencontre.
D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé alors?
Ben, en fait, ça se passait très bien. Et puis, on a eu une dispute, parce que, enfin, une sorte de dispute par message interposé, parce que je reprochais de pas me dire assez de mots d'amour. Et puis, ça s'est un peu envenimé. Je lui ai dit des choses que j'aurais pas dû lui dire, que je me suis reprochée par la suite. Et ensuite, il est resté dans le silence pendant 2 mois. Et puis finalement, je lui ai envoyé un texte en lui demandant ce qu'il advenait de notre relation. Et c'est là qu'il m'a dit que c'était en fait terminé par un long message. Et en fait, déjà, je ne m'attendais pas du tout. En plus, c'était quelqu'un de très prévenant, très gentil, enfin, que j'aimais vraiment, enfin, que, en tout cas, dont j'avais l'impression d'être amoureuse. Et j'ai beaucoup de mal à accepter cette rupture, en fait.
En un an, qu'est-ce que vous avez fait ensemble? Est-ce qu'il vous a présenté à sa famille, à ses amis?
Alors, pas à sa famille, mais parce qu'il a une sœur qui habite loin à Dubaï, un père dont il n'est pas très proche. Il m'a présenté à ses amis, à ses deux groupes d'amis. Et on a fait des week-ends en amoureux dans différentes villes de France durant les vacances.
Et qu'est-ce qu'il vous dit dans sa... C'est quoi, c'est un mail, un SMS de rupture?
Alors, c'est un message sur WhatsApp. Il m'explique que en fait, c'est vrai que en fait, je souffre de TOC. Et c'est vrai que je ne l'ai pas reçu chez moi, parce que en fait, chez moi, c'est un gros bordel. Et ça, je ne l'ai pas dit comme ça, évidemment, mais il me reproche de ne pas l'avoir reçu chez moi, qu'on n'avait pas de relation téléphonique, qu'on s'appelait très rarement. Mais moi, je trouve que c'était plutôt lui qui était mal à l'aise au téléphone. Bon, ça, c'est mon interprétation. En fait, il n'y a pas tellement de reproches à me faire. Il me dit aussi que j'ai beaucoup de qualités, qu'il énumère. Mais il sera aussi qu'il était plus jeune que moi. Il avait 43 ans, moi j'ai 52 ans. Et en fait, il voulait avoir des enfants aussi.
Mais ça, il le savait dès le départ quand même qu'il y avait un problème de ce côté-là.
Bah oui, mais je pense que... Comment dire? J'allais dire... Mis tout à bout, les reproches entre guillemets qu'il pouvait me faire et ça, mis tout à bout, il est arrivé à cette conclusion qu'il fallait qu'on se sépare en fait.
Oui, parce que quand même, cette histoire d'enfant, quand un homme se met avec une femme plus âgée, dès le départ, il le sait. Donc c'est un peu facile de servir de ça comme argument, même si je comprends que c'est ça plus ça plus ça.
Oui, je suis d'accord avec vous.
Quand bien même tout le reste aurait été tout rose, il y avait un vrai problème là pour un homme qui veut un enfant. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important, et on le sait quand on s'engage dans une relation à deux. Si on choisit une femme plus âgée, on sait que ça ne fonctionnera pas.
C'est vrai.
Il faut être un peu cohérent, donc il n'est pas forcément très honnête ni avec lui-même ni avec vous-même là, dans cette histoire.
Oui, c'est vrai.
C'est pas top, ça. Mmh. Et avant lui, ça ressemblait à quoi, votre vie amoureuse?
C'était catastrophique.
Ah, ça a commencé comment?
Par les histoires d'amour, enfin au début ça allait quand j'avais 16-17 ans, et ensuite beaucoup d'histoires compliquées avec des hommes déjà engagés, pas très gentils, même voire une limite incorrecte. Ouais.
Votre histoire la plus longue, elle a duré combien de temps?
Un an.
Ah oui. Donc c'est, vous êtes quand même habitué à des schémas qui sont un peu toujours les mêmes.
Oui, tout à fait, oui. Ouais.
Ces tocs que vous avez, ce sont quoi comme type de tocs ?
C'est des tocs de lavage.
De lavage, oui. Vous avez travaillé là-dessus ? Vous êtes fait aider ?
Bah, je me suis fait aider, mais je n'ai jamais réussi à en venir à bout, en fait.
Est-ce que vous avez...
Sûrement par manque de ténacité de ma part, je le reconnais. Mm-hmm. Je n'arrive pas à en venir à bout, en fait.
Est-ce que vous avez déterminé une cause, ou au moins l'idée d'une cause de ce besoin de nettoyer tout le temps ?
Je pense que ça peut avoir une origine dans mon histoire familiale, à savoir que ma grand-mère maternelle était très bigote. Et moi, je me suis sentie ça très vite, très tôt, très jeune. Je me suis sentie assez monstrueuse, très, très petite.
Mais pourquoi ?
Je ne sais pas.
Quand on dit « je me suis sentie », c'est à cet âge-là, c'est qu'on vous a fait sentir, probablement. Qui est-ce qui vous a sali comme ça ?
Déjà, l'histoire de mes parents, disons qu'ils ne m'attirent pas tellement d'amour l'un envers l'autre.
J'ai pas compris, Marie. Il faudrait que vous articulez.
Pardon, mes parents ne manifestaient pas tellement d'amour l'un envers l'autre.
D'accord.
Ils étaient très froids l'un envers l'autre. Et je pense que mon père nous aimait beaucoup. Nous, il a eu 3 filles, donc mes sœurs et moi. Et moi, je me sentais coupable que mon père soit gentil avec ses 3 filles et aussi méchant avec ma mère.
Ah, vous avez pris ça sur vos épaules d'enfant.
Oui.
Alors que ça ne vous appartenait pas du tout, finalement.
Oui.
Mais quand on est petit, on a toujours tendance à croire que tout est de notre faute.
Oui.
Ce qui m'ennuie un peu, c'est que ça vous fasse encore pleurer à 52 ans. Ça veut dire que ça n'a jamais été apaisé, tout ça. Vous n'avez jamais été...
Pourtant, j'ai l'impression d'avoir pardonné à mes parents, mais c'est toujours encore...
Marie, on ne vous comprend pas quand vous pleurez en parlant. Je suis désolée, mais c'est compliqué. Respirez d'abord et parlez-moi après.
J'ai l'impression d'avoir pardonné à mes parents, mais pour moi, c'est encore douloureux.
Pardonnez quoi à vos parents ? Quand vous dites pardonner, vous parlez précisément de quoi ?
De m'avoir abandonné, en fait. De m'avoir abandonné.
Pourquoi ils vous ont abandonné ? Vous m'avez dit que votre père vous aimait beaucoup et que le problème c'était entre votre mère et lui, pas avec vous.
Oui, mais je veux dire, petite, je me suis sentie très seule. Quand j'avais mes tocs à 10 ans, je me suis sentie très seule et je me sentais seule au monde, en fait.
Oui, vous me faites peur en arrêtant vos phrases au milieu comme ça.
Ah pardon, excusez-moi. Non mais j'ai eu un très fort sentiment de solitude quand j'étais petite.
Quand vous étiez petite, et avec vos sœurs, il n'y avait pas de complicité ?
Si, une très forte complicité avec une de mes sœurs, mais en fait je ne parlais pas de mes tocs, je les cachais.
Quand vous dites « j'ai pardonné à mes parents », c'est bizarre comme expression, parce que le problème n'était pas, d'après ce que vous me dites, n'était pas avec vous, mais entre eux. Donc il n'y a rien à pardonner, puisque ça ne vous concernait pas.
Ben si, parce que j'ai l'impression d'avoir pardonné le fait de m'avoir négligé, quoi.
Comment est-ce qu'on peut cacher ces tocs en famille ? Ça se voit, normalement.
Non, moi, j'ai caché.
Ils ne l'ont jamais su.
Ouais, j'en ai parlé à ma mère quand j'avais une 10aine d'années. Mmh. Et en fait, elle n'a pas réagi.
C'est-à-dire, elle a même pas répondu ?
Elle a dit que ce n'est pas grave, que ce n'est pas grave. Que...
Elle n'a pas pris l'ampleur de la chose.
Non, pas du tout.
Elle ne vous a pas amené voir une thérapeute, par exemple ?
Non.
Parce que
je voulais vous parler aussi, c'est que j'ai une thérapeute depuis presque un an, là. Et en fait, j'ai plus envie de lui parler parce que j'associe beaucoup à mon histoire avec cette personne que j'ai eue dans ma vie. Et Et j'ai plus envie de lui parler, en fait.
Attendez, je ne suis pas sûre d'avoir compris. Vous ne voulez plus voir votre thérapeute parce que vous l'associez?
Et je l'associe à mon histoire d'amour que j'ai eue ces derniers 12 mois. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai plus envie de lui parler, en fait, parce que j'associe cette phase de ma vie. Et c'est comme si j'avais plus envie de lui parler.
Le problème, c'est pas de savoir si elle est forcément associée à cette période-là, mais elle devrait être associée à un travail sur cette période-là et donc à une évolution.
Je trouve pas qu'il y ait eu d'évolution, moi.
Mais est-ce que vous m'avez dit vous-même tout à l'heure que vous n'avez pas été très persévérante dans ce travail-là?
Non, mais je parlais de mes tocs, là. Je parlais de mes tocs quand j'ai dit que j'avais pas été très persévérante. Et là, je parle d'une psychothérapeute avec qui je suis en lien depuis...
Depuis un an?
Le mois de février 2020. Et
avec elle, vous travaillez sur quoi? Sur cette relation amoureuse?
Notamment, oui.
Et qu'est-ce que ça fait remonter, alors? Qu'est-ce que vous avez commencé à comprendre de votre fonctionnement?
Justement, rien.
Vous savez, c'est comme je dis souvent, c'est que c'est peut-être pas la bonne personne, tout simplement.
Ouais, j'ai l'impression.
C'est peut-être pas quelqu'un qui vous convient et qui vous a permis de vous libérer.
J'ai l'impression que c'était très en surface, en fait, le travail qu'on a fait.
Mais alors que chez vous, il me semble qu'il y a des choses assez profondes à aller chercher.
Je pense aussi, oui.
Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant d'arriver à comprendre, à remonter sur ce qui s'est passé dans votre petite enfance. Ce sentiment d'être sale comme ça, c'est souvent lié à des tas de choses pas très sympathiques.
J'ai beaucoup réfléchi à tout ça et à un moment, je pensais à l'inceste et à mon avis, c'est pas le cas. Mais oui, je me sentais en fait, vers l'âge de 7 ans, je me sentais monstrueuse en fait.
Alors, sans aller jusqu'à l'inceste, il peut y avoir aussi des situations de profonde humiliation. Par des
D'accord.
parents, par des adultes, par des enseignants. L'humiliation peut donner l'impression à l'enfant qu'il est sale. Des réflexions humiliantes devant les autres, des comportements physiques. J'allais dire, quelquefois, il y a des parents qui ont des parents ou d'autres adultes qui ont des gestes très humiliants. Un enfant qui n'est pas propre. Quand on l'oblige, par exemple, à se coucher dans des draps qui ont été souillés, des choses comme ça. Des situations
D'accord.
terriblement humiliantes qui ne sont pas des situations d'agression sexuelle, mais qui peuvent déclencher vraiment cette sentiment d'humiliation et de finalement je n'ai aucune valeur, je suis de moins que rien, quoi.
D'accord.
Ça peut avoir déclenché aussi ça chez vous. Des situations que peut-être vous avez consciemment oubliées, mais qui existent quelque part, qui sont enregistrées dans votre esprit.
Oui, d'accord.
Et je comprends que dans des situations comme ça, ça a dû être très compliqué de vous construire. D'ailleurs, vous n'avez pas réussi à vous construire derrière.
Non.
À chaque fois que vous avez commencé, ça a échoué.
Oui.
Parce que là, je pense que au-delà de la relation, ce que vous n'acceptez pas de la rupture, là, ce que vous n'acceptez pas, c'est finalement de recommencer à nouveau et encore et encore et encore.
Oui, c'est vrai. Excusez-moi.
Je vous en prie, prenez le temps de respirer.
C'est vrai, j'ai l'impression de recommencer sans fin.
Mais justement, ce qui va être intéressant, c'est de comprendre que si la vie vous met devant cette situation répétitive, c'est qu'il y a quelque chose à en apprendre maintenant.
D'accord.
Il est peut-être temps d'appuyer sur le bouton pause et d'aller chercher ce qui ne va pas.
D'accord. Et vous pensez que je devrais changer de psychothérapeute alors?
Là, j'ai l'impression, en vous écoutant, que s'il y a quelque chose qui ne colle pas.
Ouais.
Soit vous faites un blocage, soit c'est pas la bonne personne. Donc dans ces cas-là, c'est pas forcément la peine d'insister. Il faut
oui,
que vous trouviez quelqu'un avec qui vous vous sentez vraiment en confiance, qui vous prenne par la main et qui aille travailler avec vous sur beaucoup de choses. Là.
Oui.
Parce que si vous ne faites pas ça, la prochaine histoire...
Je trouve qu'elle va pas au fond des choses, si vous voulez. C'est toujours en surface. Elle peut donner des très bons conseils spontanément, mais je trouve qu'elle va pas au fond des choses, en fait.
Est-ce que vous avez essayé de lui dire ça?
Non, pas encore, mais j'appelle demain, donc je dirais.
Déjà, essayez de voir avec elle, de lui dire ça, gentiment, simplement, sans l'agresser, de lui dire, écoutez,
bien
moi,
sûr,
ça
ne
oui. me convient pas ce qu'on fait, parce que j'ai l'impression qu'on ne va pas au fond des choses. Il y a un truc qui n'est pas correct pour moi. Et soit
oui.
elle peut le comprendre et vous pouvez en parler et elle peut peut-être s'adapter, soit ce n'est pas le cas. Et là, il sera temps de vous dire, bon, voilà, ce n'est pas la bonne personne, quoi. Pour moi, en
oui,
tout
d'accord.
cas.
D'accord. D'accord.
C'est très intime une relation avec un thérapeute. Ce n'est pas toujours évident d'être,
oui, c'est vrai, oui,
ah oui,
oui.
Bien sûr, d'être aligné comme ça.
Oui.
Mais peut-être qu'il faut vous dire que ce qui vient de se passer, cette rupture-là, c'est une chance pour vous de comprendre des choses.
Oui, c'est que je me dis aussi.
Comme un défi, comme si la vie vous mettait un défi sur votre chemin, vous disant voilà, maintenant il faut que tu comprennes des choses et il faut que tu en apprennes des choses pour pouvoir avancer autrement derrière.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Même si c'est difficile.
Tout apprentissage est toujours difficile. On apprend rarement dans le velours.
En fait, j'ai l'impression de recommencer sans fin les mêmes erreurs.
Mais oui, c'est pas une impression, c'est ce que vous avez commis. C'est pour ça que je vous dis que le moment est peut-être là, maintenant, de faire une pause et de chercher à comprendre pourquoi. Parce que quand on a compris pourquoi on attire des situations qui sont toujours les mêmes, alors ça s'arrête.
Oui, c'est vrai.
La roue infernale s'arrête. Mais pour ça, il faut en sortir. Et tant qu'on est dedans et qu'on continue à s'accrocher à ce qui ne fonctionne pas, ou à reproduire ce qui ne fonctionne pas, bah, il n'y a pas d'issue. Hein. Donc là, déjà, vous avez compris, c'est déjà très important. Vous vous êtes dit, OK, il y a un truc qui ne va pas, là. Il y a une souffrance très ancienne qui a créé une blessure chez moi. Cette blessure, elle s'exprime aussi à travers ce TOC. Ça dit beaucoup de choses. Et elle se traduit dans des relations amoureuses qui tiennent pas, quoi. Qui ne sont pas stables, qui ne sont pas celles qu'il vous faut.
Oui. Et donc, vous pensez que le MDR ou des choses comme ça pourraient me correspondre ou pas?
Bah, le MDR, pour l'instant, pas forcément, parce que vous n'avez pas... Je sais, peut-être aussi, imagine une bêtise. Peut-être que l'hypnose et le MDR cumulés pourraient vous faire du bien. Pour remonter, d'accord, des choses qui sont enfouies à l'intérieur.
D'accord.
Et aller faire un vrai nettoyage, pour le coup, nettoyage de l'intérieur et pas de l'extérieur.
D'accord.
Parce que c'est probablement ça dont vous avez besoin. C'est d'aller nettoyer des choses qui sont passées il y a très longtemps et qui vous ont vraiment sali. Et puis, justement, ensuite, réinstaurer une confiance en vous, une estime de vous. Pour vous autoriser à avoir des belles relations derrière. Pour l'instant,
c'est une belle relation. En plus, c'est ça qui me fait du mal.
Quand je dis belle relation, c'est une relation qui... Oui, enfin, c'est compliqué. Vous la voyez belle, mais ce n'était pas celle qu'il vous fallait.
Oui, c'est ça. Ouais.
Parce que c'est peut-être aussi comme si, depuis toujours, vous cherchiez chez l'autre, en l'occurrence chez un homme, un baume cicatrisant pour votre blessure. Et ça marche pas comme ça. C'est pas l'autre qui va guérir vos blessures, c'est vous-même.
D'accord.
Et quand je pense que quand peut-être cet homme-là ou d'autres avant, quand ils ont fini par comprendre plus ou moins consciemment qu'il y avait une telle attente chez vous, ils peuvent pas être à la hauteur d'une attente pareille.
D'accord.
C'est lourd à porter, ça, pour l'autre.
Ouais, je comprends, ouais, c'est sûr.
Et à partir du moment où vous allez commencer à vous soigner vous-même, ça sera beaucoup plus léger pour l'autre en face. Ça vous parle tout ça? Ça fait son chemin?
Oui, tout à fait, oui, ça me parle. Je réécouterai notre échange.
Mais dites-vous une fois de plus, moi je considère toujours que ces épreuves-là sont des cadeaux. Bien sûr, c'est douloureux. Mais une fois de plus, on n'apprend jamais rien quand tout va bien. Quand on nage dans un bonheur parfait, de manière générale, on n'apprend pas grand-chose de la vie. C'est toujours les épreuves, les défis, les challenges qui nous font grandir. Ce sont les chutes qui nous apprennent à nous relever.
Oui, c'est vrai.
Alors certes, ça fait mal, mais on en sort grandi, on apprend quelque chose.
Mm.
Et là, vous êtes en train d'apprendre des choses importantes sur vous qui vont probablement changer la suite.
D'accord.
Et ça, c'est plutôt positif.
C'est vrai. Merci beaucoup, Sabine.
Avec plaisir. Si vous le souhaitez, il y a plusieurs personnes qui ont laissé leur numéro de téléphone pour échanger avec vous si vous en avez envie.
Oui, merci.
Donc vous n'allez pas raccrocher. Je vais vous passer.
Oui, d'accord.
Je vais vous passer Maxime.
D'accord.
Et à vous transmettre
beaucoup
le numéro de téléphone, d'accord?
Merci beaucoup. Au revoir, Sabine. Merci beaucoup.
Au revoir, Marie.